Et l'on débute avec le journal de Catherine Dutube. Bonjour Catherine.
Bonjour Guillaume, bonjour à toutes et à tous. À la une ce matin, l'affaire Benalla, décidément tentaculaire. Le parquet national financier ouvre une enquête pour corruption et veut en savoir plus sur un contrat de sécurité signé avec un oligarque russe, contrat dans lequel seraient impliqués Alexandre Benalla et certains de ses amis, dont le compagnon de la responsable de la sécurité du Premier ministre. Cette dernière a démissionné hier de son poste à Matignon.
Des tensions à n'en plus finir en Europe. La France rappelle son ambassadeur en Italie dénonçant l'ingérence inacceptable des populistes au pouvoir à Rome. Luigi Di Maio du mouvement 5 étoiles est venu en France pour soutenir des gilets jaunes.
Et puis Londres et Bruxelles n'arrivent toujours pas à s'entendre sur le Brexit et sur le statut de la frontière entre les deux Irlandes à un mois et demi de la date de sortie prévue du Royaume-Uni de l'Union Européenne.
Et puis Catherine, dans une dizaine de minutes, je regarde si vous avez bonne mine parce qu'on va parler de l'épidémie de grippe. Vous avez l'air flamboyante. La vaccination est-elle vraiment efficace? On posera la question à Odile Lenel et infectiologue à l'hôpital Cochin à Paris.
L'été dernier, l'Élysée avait mis du temps à réagir. À Matignon, pas question de rester les bras croisés en étant éclaboussé par l'affaire Benalla. Il aura fallu moins de 48 heures pour que la chef du groupe de sécurité du Premier ministre démissionne de son poste. Marie-Élodie Poitou et son conjoint militaire sont soupçonnés d'avoir des liens étroits avec Alexandre Benalla et Vincent Crase, ancien gendarme, lui aussi mis en examen pour violence en réunion en marge des défilés du 1er mai à Paris. Les deux hommes se sont rencontrés fin juillet en violation de leur contrôle judiciaire. Mediapart a diffusé des extraits de leur conversation. L'ex-chef du groupe de sécurité du Premier ministre dément, elle, tout lien avec ces enregistrements. Mais elle préfère démissionner de Matignon, Rosalie Lafarge.
Son rôle, c'est de protéger le Premier ministre, pas de l'exposer. Voilà les mots de Marie-Élodie Poitou pour justifier sa démission. Elle veut écarter toute polémique, précise Matignon. Dans la foulée des révélations de la presse sur elle, son compagnon et leur lien avec Alexandre Benalla, la chef du groupe de sécurité est reçue par Édouard Philippe. Devant lui, elle maintient sa version. Elle n'est en rien liée à une quelconque rencontre entre messieurs Benalla et Crase fin juillet, en violation de leur contrôle judiciaire. Elle n'a rien à voir non plus avec les enregistrements des conversations entre les deux hommes révélés par Mediapart. Selon les services de Matignon, Marie-Élodie Poitou confirme qu'avec son conjoint, Chokri Wakrim, ils ont reçu Alexandre Benalla chez eux fin juillet, mais sans Vincent Crase, d'après la commissaire. D'ailleurs, elle l'assure, elle ne le connaît pas. Et aucune chance non plus, dit-elle également, que cette rencontre ait été organisée chez elle, en son absence, par son compagnon. Compagnon qu'on pourrait retrouver dans l'enquête ouverte par le parquet national financier. Cette enquête concerne un contrat de sécurité conclu avec un oligarque russe, Iskander Mahmoudov. Et selon Mediapart et Libération, Chokri Wakrim et Alexandre Benalla seraient impliqués dans sa conclusion.
Et des soupçons de corruption pèsent en effet sur ce contrat de sécurité conclu avec un proche de Vladimir Poutine, un homme sulfureux dont la fortune est estimée à plus de 7 milliards d'euros. Et c'est pour cela donc que le parquet national financier a ouvert hier une enquête, Mathilde Lemaire.
Le contrat en question prévoyait la protection des biens immobiliers du milliardaire russe Iskander Mahmoudov en France et à Monaco. Mahmoudov est proche de Vladimir Poutine. Il est à la tête d'un empire industriel spécialisé dans la métallurgie. Fortune estimée par le magazine Forbes plus de 7 milliards d'euros. Plusieurs magistrats européens soupçonnent cet oligarque d'acquaintance avec des criminels mafieux en Russie. Selon Mediapart, Alexandre Benalla a négocié le contrat de près de 300 000 euros entre cet homme d'affaires russe et la société Mars, société de sécurité de son ami Vincent Crase, et cela du temps où il était encore en poste à l'Elysée, habilité secret défense. L'ex-conseiller d'Emmanuel Macron a toujours démenti, encore il y a deux semaines, devant la commission d'enquête du Sénat.
Je voulais vous demander si vous connaissiez M. Iskander Mahmoudov.
Je ne connais pas cette personne, mis à part à travers la presse, je ne l'ai jamais rencontré.
Étiez-vous informé de la collaboration de M. Crase avec M. Mahmoudov?
J'étais au courant de ses affaires, c'est un ami, je ne vais pas le cacher devant vous aujourd'hui. Tout ce que je peux vous affirmer aujourd'hui, c'est que je n'ai jamais contribué à une quelconque conclusion au moindre contrat que M. Crase a pu passer avec qui que ce soit, encore moins cette personne.
Devant la même commission du Sénat, Vincent Crase a reconnu avoir travaillé pour cet oligarque russe, mais une fois parti de l'Élysée et sans l'aide, dit-il, de son ami Alexandre Benalla.
Et le couple par qui l'affaire Benalla est arrivée sera jugé ce matin au tribunal correctionnel de Paris, poursuivi pour avoir lancé des objets sur les forces de l'ordre lors des manifestations du 1er mai dernier à Paris. Nous vous en parlions hier dans ce même journal. Le député Mathieu Orphelin, proche de Nicolas Hulot, quitte le groupe La République En Marche à cause, dit-il, d'avancées insuffisantes sur les enjeux climatiques et sociaux. Lui qui regrettait l'abandon de la baisse de la part du nucléaire dans le mix énergétique pourrait bien regretter aussi un autre objectif de la loi de transition énergétique qui vient de tomber, celui qui promettait la baisse de la consommation d'énergie de 20%, Anne-Laure Barral.
C'est bien connu, les promesses n'engagent que ceux qui les écoutent. Promis, nous réduirons nos émissions de gaz à effet de serre pour le climat et pour ça, nous réduirons notamment nos consommations d'énergie de 20% en 2030. C'est ce qui était écrit dans la loi de 2015. Mais voilà, comme l'objectif de la baisse de la part du nucléaire, la baisse de nos consommations d'énergie ne se fait pas toute seule et nous avons même tendance à faire l'inverse. Alors, dans son projet de loi énergétique, qui doit arriver en débat prochainement à l'Assemblée, le gouvernement rogne un peu sur l'objectif. Nous serons plutôt à 17%. Comment l'expliquer ? Pas assez d'efforts pour faire des véhicules moins gourmands, pour limiter l'usage de la voiture individuelle au profit de transports en commun efficaces, mais surtout, pas assez d'efforts pour réduire nos factures de chauffage en rénovant nos bâtiments anciens, estiment les associations. Dans son texte, le gouvernement promet de faire mieux en 2050, avec notamment la neutralité carbone, un concept encore un peu flou, mais surtout de long terme, encore une promesse pour ceux qui les écoutent.
Au nom de la lutte contre le réchauffement climatique et de l'accord de Paris, un tribunal australien a rendu ce matin une décision potentiellement lourde de conséquences pour l'industrie minière en rejetant un projet de mine à charbon à ciel ouvert. Toutes les ressources naturelles ne doivent pas nécessairement être exploitées, a déclaré le juge australien.
7h06 sur France Culture, la suite du journal de Catherine Dutu. À moins de 4 mois des élections européennes, l'Union européenne traverse une crise diplomatique sans précédent entre deux de ses membres fondateurs.
La France rappelle son ambassadeur en Italie pour dénoncer de récentes déclarations outrancières de responsables italiens. La crise couvait depuis longtemps sur les questions migratoires, budgétaires, mais la goutte d'eau, celle de trop, c'est la venue en France du vice-premier ministre Luigi Di Maio en soutien aux Gilets jaunes. Ingérence, provocation inacceptable. Acceptable pour Paris. Réaction à Rome, suivie par Mathilde Imberti.
Après l'annonce du rappel de l'ambassadeur, Luigi Di Maio, l'homme par qui la décision de la France est arrivée, s'est dit prêt à rencontrer le gouvernement français, tout en justifiant son déplacement auprès des Gilets jaunes en tant que chef de formation politique Les 5 étoiles. Matteo Salvini pose lui ses conditions à la reprise du dialogue. Il faudra que la France arrête de refouler des migrants à la frontière et qu'elle nous rende les terroristes italiens réfugiés chez elle, déclare le leader de la Ligue. Giuseppe Conte, l'interlocuteur en théorie numéro 1 de la France, se veut lui confiant, le président du Conseil italien. L'Italien réagissait hier soir.
Les relations franco-italiennes ont des racines lointaines d'ordre culturel et économique. Elles ne peuvent donc pas être remises en discussion au gré des aléas.
De son côté, l'opposition italienne en appelle à la fin des provocations. L'actuel secrétaire du Parti démocrate écrit à Emmanuel Macron pour l'assurer que l'Italie ne se résume pas, je cite, à des ministres incompétents en campagne électorale permanente. Enfin, les patrons des patrons, le numéro 1 de la Confindustria et son homologue du MEDEF, ont écrit une lettre conjointe aux dirigeants français et italiens en souhaitant une reprise constructive du dialogue.
Et pendant que la France et l'Italie se déchirent, Londres et Bruxelles n'arrivent toujours pas à s'entendre sur le Brexit et sur le statut de la frontière entre les deux Irlandes. Pas d'avancée hier après que la première ministre britannique Theresa May a rencontré Jean-Claude Juncker, le président de la Commission européenne. Ils doivent se revoir avant la fin du mois, mais que peuvent-ils imaginer alors que se profile l'échéance du 29 mars, date de sortie prévue du Royaume-Uni de l'UE? Le champ des possibles se restreint, Antoine Gignot.
Pour la première ministre britannique, le scénario idéal, c'est celui où l'Union européenne, à l'approche de la date fatidique du 29 mars, change soudain d'avis et accepte de renégocier le dispositif qui concerne la frontière irlandaise. Ce filet de sécurité, ce backstop que refusent les députés unionistes nord-irlandais et une partie des conservateurs parce qu'il oblige l'Irlande du Nord à rester alignée sur les réglementations de Bruxelles, reste l'un des points centraux des négociations. Mais ce revirement des chefs d'État des 27 est peu probable. Pour faire valider son accord au Parlement, Theresa May va donc devoir se passer d'une partie des élus de la majorité. Elle pourrait tenter de les remplacer par des voix de gauche en promettant de fixer des règles drastiques pour protéger le statut des travailleurs, pour améliorer les normes et les conditions de travail, pour protéger l'environnement. quelques députés pourraient se laisser séduire. Certains l'ont déjà dit ouvertement, mais ce ne sera vraisemblablement pas suffisant. Reste du coup une seule possibilité, négocier directement avec le Parti travailliste et accepter la solution que propose son chef de file, Jeremy Corbyn, un Brexit à minima qui permettrait au Royaume-Uni de rester dans l'union douanière. Il faudrait pour cela que la Première ministre renonce à sa principale exigence, la reprise en main des frontières et de l'immigration, car une libre circulation des biens au sein de l'union douanière obligerait les Britanniques à accepter aussi la libre circulation des populations à l'intérieur du bloc européen.
Antoine Gignot à Londres pour France Culture. Plus de 4 mois après l'assassinat du journaliste saoudien Jamal Khashoggi dans les locaux du consulat de son pays à Istanbul, Donald Trump doit dire aujourd'hui à la demande du Congrès américain s'il considère que le régime de Riyad est responsable du meurtre de celui qui s'était réfugié aux États-Unis et qui travaillait pour le Washington Post. De son côté, la rapporteure spéciale des Nations Unies chargée de mener une enquête internationale sur ces faits affirme détenir suffisamment d'éléments qui prouvent que Jamal Khashoggi a bien été la victime d'un meurtre brutal et prémédité commis par des officiels saoudiens. Là non plus, aucun doute, deux anciens otages du groupe État islamique en Syrie ont témoigné hier au procès de Medine Mouche pour la tuerie du musée juif de Bruxelles en 2014. Le journaliste Didier François et Nicolas Hénin ont formellement reconnu Medine Mouche comme l'un de leurs geôliers. On y revient dans le journal de 7h30. Au chapitre judiciaire encore, le procès en diffamation de Noli Baupin contre France Inter et Mediapart s'achève ce soir au tribunal correctionnel de Paris. Depuis lundi, les magistrats ont entendu une quinzaine de témoignages de femmes qui disent avoir été victimes d'agressions sexuelles ou de harcèlement de la part de l'ancien député. Témoignages que la défense de Noli Baupin conteste. Mais la question à laquelle devra répondre le tribunal est bien de savoir si l'enquête journalistique était sérieuse, Jean-Philippe Deniaud.
À chaque femme qui est venue témoigner, le président du tribunal a posé une seule question essentielle au débat. Confirmez-vous les propos qui vous ont été attribués dans l'enquête des journalistes de France Inter et Mediapart? À chaque fois, elles ont répondu oui, en détaillant les scènes parfois violentes qu'elles disent avoir subies. Mais pour l'avocat de Denis Baupin, les journalistes s'en sont tenus à ces témoignages sans chercher la contradiction. Maître Emmanuel Pira.
Il y a une apparence qui donne l'impression qu'il y a un débat et un procès pénal contre Denis Baupin. Il faut les mettre de côté et s'attacher aux accusations écrites dans les deux articles de base. Et ces accusations, elles ne sont pas étayées au regard des débats que nous avons eus.
Pour Maître Emmanuel Torjman, l'avocat de Mediapart, bien au contraire, les récits constants et concordants de ces femmes suffisent à crédibiliser l'enquête des deux journalistes.
On n'est plus dans un procès de presse, on est dans le procès de la libération de la parole des femmes. Enfin, les femmes peuvent dire et expliquer ce que sont certains hommes, et notamment pas des moindres. Et je pense que nous n'aurons aucune difficulté à convaincre le tribunal de ce qu'il n'y a évidemment aucune diffamation commise à l'égard de M. Denis Baupin.
À la barre des témoins, hier, Cécile Duflot a insisté sur les conséquences heureuses de la publication de cette enquête il y a 3 ans. Elle a permis aux filles de savoir qu'aujourd'hui, elles n'auront plus à vivre de telles choses pour réussir en politique.
Le temps de ce vendredi 8 février, humide au nord et plus lumineux au sud. Au meilleur de la journée, il fera entre 8 et 13 degrés sur la moitié nord de l'Hexagone, 11 à 17 au sud, Guillaume.
Mais dites-moi, c'est un temps où il faut faire attention, Catherine Dutu.
Bon, c'est assez doux pour la saison.
J'espère
peut-être que
vous
les microbes
êtes vaccinés. Voilà, on va en parler dans quelques instants au sujet de l'épidémie de grippe.